payer. Le jour de sa fête, il plaça par plaisanterie une immortelle dans le bouquet qu'il jeta sur l'oreiller de Vera. « Puisqu'elle se croit morte, dit-il. » Grâce à la profonde et toute-puissante volonté de M. d'Athol, qui, à force d'amour, forgeait la vie et la présence de sa femme dans l'hôtel solitaire, cette existence avait fini par devenir d'un charme sombre et persuadeur. Raymond lui-même n'éprouvait plus aucune épouvante, s'étant graduellement habitué à cette impression. Une robe de velours noir aperçue au détour d'une allée, une voix rieuse qui l'appelait dans le salon, un coup de sonnette le matin à son réveil comme autrefois, tout cela lui était devenu familier. On eût dit que la morte jouait à l'invisible comme une enfant. Elle se sentait aimée tellement. C'était bien naturel. Une année s'était écoulée. Le soir de l'anniversaire, le comte, assis auprès du feu dans la chambre de Vera, venait de lui lire un fabliau florentin Callimaque. Il ferma le livre, puis, en se servant du thé, « Douchka, dit-il, te souviens-tu de la vallée des roses, des bords de la Lanne du château des Quatre Tours ? Cette histoire te les a rappelés, n'est-ce pas ?» Il se leva, et dans la glace bleuâtre, il se vit plus pâle qu'à l'ordinaire. Il prit un bracelet de perles dans une coupe et regarda les perles attentivement. Vera ne les avait-elle pas ôtées de son bras tout à l'heure avant de se dévêtir? Les perles étaient encore tièdes et leur orient plus adouci, comme par la chaleur de sa chair. Et l'opale de ce collier sibérien qui aimait aussi le beau sein de Vera jusqu'à pâlir maladivement dans son treillis d'or lorsque la jeune femme l'oubliait pendant quelque temps. Autrefois, la comtesse aimait pour cela cette pierrerie fidèle. Ce soir, l'opale brillait comme si elle venait d'être quittée, comme si le magnétisme exquis de la belle morte la pénétrait encore. En reposant le collier et la pierre précieuse, le comte toucha par hasard le mouchoir de batiste dont les gouttes de sang étaient humides et rouges comme des œillets sur la neige. Là, sur le piano, qui donc avait tourné la page finale de la mélodie d'autrefois ? Quoi ? La veilleuse sacrée s'était rallumée dans le reliquaire ? Oui, sa flamme dorée éclairait mystiquement le visage aux yeux fermés de la Madone ? Et ces fleurs orientales nouvellement cueillies qui s'épanouissaient là, dans les vieux vases de Saxe ? Quelle main venait de les y placer ? La chambre semblait joyeuse et douée de vie, d'une façon plus significative et plus intense que d'habitude. Mais rien ne pouvait surprendre le comte. Cela lui semblait tellement normal qu'il ne fit même pas attention que l'heure sonnait à cette pendule arrêtée depuis une année. Ce soir-là, cependant, on lui dit que du fond des ténèbres, la comtesse Vera s'efforçait adorablement de revenir dans cette chambre tout embaumée d'elle. Elle y avait laissé tant de sa personne. Tout ce qui avait constitué son existence l'y attirait. Son charme y flottait. Les longues violences faites par la volonté passionnée de son époux, il devait avoir desserré les vagues liens de l'invisible autour d'elle. Elle y était nécessité. Tout ce qu'elle aimait, c'était là. Elle devait avoir envie de venir se sourire encore en cette glace mystérieuse où elle avait tant de fois admiré son lilial visage. La douce morte là-bas avait tressailli, certes, dans ses violettes, sous les lampes éteintes. La divine morte avait frémi dans le caveau, toute seule, en regardant la clé d'argent jetée sur les dalles. Elle voulait s'en venir vers lui aussi. Et sa volonté se perdait dans l'idée de l'encens et de l'isolement. Ah, les idées sont des êtres vivants. Le comte avait creusé dans l'air la forme de son amour, et il fallait bien que ce vide fût comblé par le seul être qui lui était homogène, autrement l'univers aurait croulé.